Comme ce matin, nous lisons deux passages dans nos Bibles, le premier dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc au chapitre 12. Évangile selon Luc, chapitre 12. Nous avons fait allusion à ce passage ce matin. À partir du verset 22 et jusqu'au verset 34, Luc 12, 22 à 34. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. » Considérez, c'est un verbe très fort. Littéralement, scrutez, analysez, observez attentivement. Il y a un petit préfixe qui sous-entend même un regard attentif qui va du haut en bas, qui parcourt la totalité. C'est un verbe qui était utilisé autrefois pour évoquer le travail des astronomes qui perçaient le secret des astres. Donc, ce verbe très fort. Hein. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent, ils ne peinent, c'est un verbe très fort, ils ne peinent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il? Petit croyant, littéralement. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Faut-il dire, avant de venir à notre second passage d'un roi 17, que nous n'avons pas dans cet enseignement du Seigneur Jésus une incitation à la paresse. Et vous savez que nous avons le cœur tellement tortueux qu'on a exploité parfois ce texte pour lui faire dire, bien entendu en contradiction flagrante avec l'ensemble des Écritures, que c'était une incitation à attendre passivement l'intervention de Dieu dans la vie du croyant. Nous ne sommes jamais invités à la paresse. D'ailleurs, c'est Luther, le grand réformateur, qui a dit dans un langage qui lui était propre, il avait un langage très coloré, très imagé, plein de relief, c'était un révolutionnaire de la langue allemande hein, à son époque, et il a écrit ceci, « Dieu n'a que faire des goinfres et des paresseux, qui se fichent de tout et n'entreprennent rien. Ils agissent comme s'il suffisait de s'asseoir et d'attendre que Dieu leur fasse tomber dans la bouche une oie toute cuite. Okay. En réalité, ce passage est une invitation à refuser les tourments de l'inquiétude. Vous savez, l'inquiétude, c'est comme une chaise à bascule. Ça vous occupe, mais ça ne vous fait pas avancer. Alors, nous allons vers le premier livre des Rois, au chapitre 17, dont nous lisons les 7 premiers versets. 1 Rois 17, versets 1 à 7, d'ici jeudi matin, nous connaîtrons le passage par cœur, de cette manière. Je lis verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous évoquons depuis ce matin la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui offre à son serviteur Élie la protection qui lui est nécessaire dans les circonstances qu'il traverse. Et nous avons donc évoqué la cachette de Dieu ce matin dans un premier temps. Et je pense ici à divers récits qui se rejoignent dans l'histoire de l'Église, où des hommes, des femmes de Dieu, pourchassés à cause de leur foi, comme Élie l'a été, et qui ont vu l'intervention protectrice de Dieu, nous l'avons vu ce matin. Je pense notamment à un certain Félix de Nola, qui se réfugia dans une caverne, nous avons beaucoup parlé caverne ce matin, et il venait à peine d'entrer dans la caverne qu'une araignée commençait déjà à tisser sa toile devant l'entrée de cette caverne. Et les poursuivants sont arrivés un peu plus tard et ils se donnèrent à peine le temps de regarder à l'intérieur, l'un disant à l'autre, de toute façon, il ne peut pas s'être réfugié dans cette caverne puisqu'il y a, tu le vois, une toile d'araignée. Et c'est ainsi que Félix de Nola a été épargné, et quelqu'un, un homme de Dieu, a dit, quand Dieu est là, une toile d'araignée est un mur, quand il n'y est pas, un mur n'est qu'une toile d'araignée. La cachette de Dieu, premièrement, protection nécessaire, secondement, préparation nécessaire, mais nous ne nous sommes pas appesantis sur cet aspect puisque nous aurons l'occasion amplement d'y revenir plus tard. Et puis, fidélité de Dieu, d'un Dieu qui pourvoit, protection de Dieu d'une part, provision de Dieu d'autre part, et vous vous souvenez que nous avons évoqué deux des trois caractéristiques de la fidélité protectrice apportant provision à son serviteur dans ces versets d'un roi 17. Premièrement, la fidélité de Dieu est sans limite, elle est toute puissante. Deuxièmement, la fidélité de Dieu est généreuse. Et nous arrivons donc à la troisième caractéristique de la fidélité de Dieu dans ce passage, celle peut-être qui nous dérange à quelque part le plus. La fidélité de Dieu est étonnante. Non seulement elle est étonnante, mais elle est surprenante. Nous montons d'un petit cran. Non seulement elle est surprenante, mais elle peut être déconcertante, choquante. Nous allons jusque-là. Parce que ce sont des corbeaux qui ont été utilisés par Dieu pour transporter de la viande. Je ne sais pas si ça vous dérange, en tout cas moi ça me dérange. Et je suis absolument persuadé qu'Élie était dérangé au départ, à quelque part. Lorsqu'il a associé, parce que Dieu le lui demandait, les corbeaux à son alimentation. Ne fût-ce que parce que dans Lévitique au chapitre 11 et dans les versets 13 et 15, il est dit « Voici parmi les oiseaux ce que vous considérerez comme abominable. » Et Dieu d'ajouter, et dont on ne mangera pas, le corbeau et toutes ses espèces. Le corbeau. Considérez le corbeau, a dit Jésus. Considérez. Observez-le de près. Oiseau, donc, dans la pensée de Dieu, impur. Oiseau vorace. Oiseau, disons-le, répugnant, qui se nourrit non seulement de grains, d'insectes, de vers, de larves qu'il déterre, mais aussi de détritus et de charognes. Et j'ai là un extrait d'un article traitant du corbeau, dans lequel d'ailleurs l'auteur précise que d'innombrables corbeaux nichent encore aujourd'hui dans les grottes de la gorge qui jadis abrita probablement Élie, c'est intéressant, et qui écrit ceci, « Cet oiseau, surtout le grand corbeau, se nourrit de chair pourrie qui lui communique à lui-même une odeur fétide. » Et le rendre impropre à servir de nourriture. Est-ce que ça voudrait dire que notre ami Élie a dû mettre une pince à linge chaque fois que le corbeau arrivait tout près de lui? Les yeux des autres animaux, vivants ou morts, constituent pour le grand corbeau un mets de choix. Buffon, qui fut un grand naturaliste français et qui a d'ailleurs rédigé une immense encyclopédie sur ce thème, grâce à son serviteur qui, quand il ne se réveillait pas assez tôt le matin, venait avec un baquet d'eau. Il lui avait dit, écoute, si je ne me réveille pas le matin pour me mettre au travail, tu m'envoies un baquet d'eau froide. Et il a souvent dit, c'est grâce à mon serviteur que j'ai pu rédiger mon encyclopédie. Et, alors Buffon dit qu'en certains pays, cet oiseau vorace se pose sur le dos des buffles, leur crève les yeux, et ensuite s'attaque à leur chair. L'auteur de cet article ajoute, on lit dans Proverbe 30:17, « L'œil de celui qui se rit de son père et qui refuse d'obéir à sa mère, eh bien que les corbeaux du torrent le crèvent et que les petits de l'aigle le dévorent. » Chez les Grecs, être jeté au corbeau, cette locution, cette expression, pour devenir leur pâture, constituer le suprême déshonneur. J'ai été réjoui d'un côté, mais malheureux de l'autre, lorsqu'il y a très peu de temps, en juin dernier, dans un reportage télévisé au journal télévisé du soir, il était question en France, de corbeaux qui, dans une certaine région de notre pays, crevaient les yeux du bétail. C'était un drame. Il y avait là un gros problème pour certains paysans parce que les corbeaux crevaient les yeux du bétail et de surcroît, et c'était très impressionnant, les images qui étaient montrées, présentaient le travail de ces corbeaux creusant des trous à coups de bec sur la croupe des bêtes, n'est-ce pas, du bétail, jusqu'à réussir à atteindre la moelle épinière. Et ils tuaient les animaux de cette manière. C'est tout récent. En octobre 1983, l'Institut biblique Emmaüs m'avait invité à donner une série d'études bibliques pour la retraite qui démarre chaque année dans la plupart des instituts. Il y avait là entre 2 et 3 jours de retraite et je devais donc donner un enseignement pour cette rentrée. Et on m'avait demandé de traiter de l'histoire d'Élie, voyez, en 83. Et j'avais donc évoqué ce que je savais à l'époque du corbeau. Et étant invité à la table du directeur de l'institut dans les jours qui suivaient ou dans le cadre de la retraite, ce directeur s'est habillé de me raconter sa chasse avec un certain dégoût, une moue caractéristique du dégoût. Il m'a dit, nous avons été tellement ennuyés, dérangés par des corbeaux qui devenaient très envahissants aux alentours des bâtiments de l'institut que finalement je me suis déguisé en chasseur. Il fallait faire quelque chose, on ne pouvait pas continuer ainsi, donc j'ai pris un fusil. Et il a tiré dans le tas, et finalement, un corbeau est tombé, et il est allé pour le récupérer. Et c'est là, alors que sa moue de dégoût est devenue caractéristique, il a dit que c'était infect. Il grouillait de vermine, de la vermine qui se déplaçait et qui volait sur pied. Le corbeau, vous le savez peut-être dans l'histoire, c'est le symbole d'un homme avide, sans scrupules, médisant, acharné. Le corbeau a été dans l'histoire un oiseau de mauvais augure. Il a été, ceux qui connaissent un peu l'histoire des événements qui ont marqué la vie de notre pays de France, l'affaire Grégory, il était question d'un corbeau. On ne parlait que de ce corbeau, auteur de lettres ou de coups de téléphone anonymes. Autrefois, le corbeau désignait un employé des pompes funèbres, qu'on a appelé le croque-mort. Et puis plus en arrière encore, le corbeau désignait la personne qui transportait les corps des pestiférés. Vous voyez que le curriculum vitae du corbeau n'est pas enviable. Dieu utilise donc des moyens insoupçonnés, des moyens irrationnels qui n'entrent pas dans notre logique des choses, des moyens hors normes, bizarres, qui nous apparaissent peu orthodoxes, non conventionnels, des moyens désagréables quelque part, pour nous secourir. Sa fidélité emprunte parfois des chemins très originaux, des chemins qui n'entrent pas toujours dans nos schémas de pensée traditionnels acceptables. Et nous sommes d'accord avec cette exclamation au nom de l'Éternel du prophète Ésaïe dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, n'est-ce pas ? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et pour moi, c'est une leçon, c'est un enseignement. C'est un enseignement concernant les principes que je crois biblique. Crois, eh? Qui nous rappelle que le corbeau est peut-être quand même un animal évangélique à quelque part. Crois, crois, crois. Mais je le redis, je dois me méfier de mes principes que je crois bibliques et qui ne le sont pas. Et je suis frappé de voir combien, au sein du peuple de Dieu, malgré notre connaissance des Écritures, nous sommes capables de transporter avec nous des casseroles de ce genre. Traîner des principes que nous croyons mordicus, bibliques, et qui ne le sont pas. Vous savez, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, le Père a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre. La femme, répondant au serpent, a dit, nous ne devons pas toucher. Il y avait déjà là un premier décalage. Certes, il était peut-être préférable de ne pas toucher parce qu'en touchant, on était tenté d'aller plus loin. Mais quand même. Parce qu'ici, dans notre histoire, bien évidemment, s'il était interdit de manger du corbeau, il n'était pas interdit d'accepter son aide. Et nous devons, pour notre bien spirituel, pour notre croissance spirituelle, toujours veiller à réexaminer nos principes, à la lumière des Écritures, et à accepter de nous laisser corriger, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie avec Christ, dans des domaines où nous avons creusé à quelque part des ornières de décalage par rapport aux Écritures. Trop souvent, des églises se sont divisées sur des principes qui n'étaient pas bibliques. Et c'est regrettable. Un homme de Dieu qui a vécu une dizaine d'années extrêmement difficiles dans sa vie, il exerce toujours un ministère à l'heure actuelle, a écrit ceci, « Des rois frappent parfois à notre porte, vêtus comme des mendiants. Des bénédictions se présentent à nous sous l'aspect de malédiction. Et nous recevons souvent des anges, sans le savoir. Combien de bénédictions avais-je dénigrées parce qu'elles ressemblaient à des malédictions? Combien de rois avais-je déboutés devant ma porte? Donc, envoyés, parce qu'ils avaient revêtu les guenilles d'un mort. Nous aurons l'occasion d'évoquer un personnage célèbre des Écritures, Jacob. Dans cette nuit terrible du gué de Jabok, après avoir utilisé toutes les ficelles de son métier de docteur en calcul, trompeur, etc., n'est-ce pas, quand il était coincé, il se battait férocement contre un ennemi. Et cet ennemi, c'était l'ange de l'Éternel. C'était son sauveur. Et c'est au cœur du combat qu'il a subitement réalisé qu'il était en train de lutter contre celui qui était venu à sa rencontre pour le bénir. Oh certes, bénédiction qui passait par la douleur. Mais combien de bénédictions dans nos vies empruntent le chemin de la douleur? Alors Élie a cru, et nous le redisons parce que, après ce que nous avons dit, ce n'est plus une phrase banale. Élie, ce fidèle, cet homme de Dieu, attaché à la parole de Dieu, soucieux de s'inscrire dans l'obéissance à la loi mosaïque, Élie a cru à la parole du Dieu vivant, du Dieu de l'incroyable, du Dieu de l'impossible, du Dieu de l'extraordinaire. Manifestement, Élie connaissait son Dieu. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Nous retrouverons, pas cette fois-ci, c'était l'an dernier, Élie, plus tard, broyant du noir dans le désert, à l'ombre d'un genêt, et qui, à un moment donné, est subitement secoué pour sortir de son assoupissement. Et il a devant lui un merveilleux repas. Vous connaissez l'histoire d'un roi, chapitre 19, verset 6. L'ange de l'Éternel qui intervient une fois de plus pour lui offrir un magnifique repas. Alors il va avoir quelques peines à le manger, parce que quand on est dépressif, on n'a pas beaucoup d'appétit, n'est-ce pas? Alors l'ange va intervenir une fois, deux fois. Et puis avec l'énergie que lui donne ce repas, il va faire un long chemin de 400 kilomètres, où il a rendez-vous dans une cachette. Et Dieu à nouveau a caché son serviteur Élie. Quand Élie est tombé, devenu dépressif, Dieu l'a mis dans une cachette. Là, sur la montagne, en Horeb, et il a parlé à son cœur. Et ça a été un redémarrage dans la vie de cet homme de Dieu. Alors j'ai simplement sélectionné, avant que nous allions plus loin, trois histoires de corbeaux. Parce que il faut que nous comprenions, n'est-ce pas, que cette histoire que nous avons dans 1 Roi 17 n'appartient pas simplement au milieu du 9e siècle avant Jésus-Christ, mais qu'elle est pour nous aujourd'hui, que Dieu est le Dieu vivant aujourd'hui. Alors il y a tout d'abord cette histoire, ce sont des histoires tout à fait authentiques, il n'y a rien d'inventé. Il se trouve qu'en hébreu, les consonnes du mot corbeau, quand il est utilisé au pluriel, et du mot arabe, au pluriel, sont identiques. Et quelques commentateurs incrédules, libéraux si vous voulez, refusant simplement le caractère miraculeux de l'intervention divine, ont remplacé donc dans le texte les corbeaux par des arabes. Ils ont dit ce sont des arabes qui ont été les intendants du prophète. Alors d'une part, l'autorité des anciennes versions de l'Ancien Testament ne le permet pas. Et puis quelqu'un a fait très justement remarquer, si des hommes avaient apporté du vin et de la viande au prophète, eh bien, il lui aurait aussi fourni de l'eau quand le torrent de Kérit fut desséché. Et il se trouve que cette approche rationaliste, où simplement on enferme Dieu dans la boîte de la raison humaine, a profondément scandalisé un croyant chinois. Parce que ce croyant avait mille fois expérimenté le secours miraculeux du Dieu fidèle. Et ce sont des missionnaires, un certain nombre de missionnaires, qui ont confirmé le fait suivant, vécu par ce croyant chinois, qui s'appelait Li, et qui avait ouvert une sorte de maison d'accueil, un centre d'accueil, en tant que disciple de Jésus-Christ, pour aider les fumeurs d'opium à sortir de leurs ornières d'esclavage. Et puis, peu à peu, le filet de personnes s'était amenuisé, amoindri, et plus personne ne venant pour des soins, notre ami Li se retrouve sans ressources. Alors il finit par s'agenouiller et demander à Dieu de lui envoyer de quoi se nourrir. Et pendant qu'il prie, il entend des croassements et des battements d'ailes dans la cour. Et il sort tout juste à temps pour voir un morceau de viande tomber à ses pieds. Il continue à regarder étonné Et il découvre des vautours et des corbeaux excités qui volent au-dessus de lui. Et se retournant, il voit un morceau de pain perdu par un autre de ces oiseaux. Première histoire. Deuxième histoire, sur le champ missionnaire, nous sommes en Inde. Et c'est un médecin missionnaire et son aide qui se rendent dans un village pour rouvrir un dispensaire fermé depuis quelque temps déjà. Alors, il travaille et après quelques heures de dur labeur, l'aide est prié d'aller déballer le repas froid. Alors, il rentre dans le dispensaire après avoir commencé à déballer à l'extérieur parce qu'il doit y chercher la boisson. Et pendant qu'il est à l'intérieur, un grand corbeau vient voler le plat principal, un magnifique morceau de viande. Trois jours plus tard, une femme païenne arrive au dispensaire et d'emblée, s'adressant au médecin missionnaire, elle lui dit qu'elle désire apprendre à connaître le Dieu des chrétiens. Alors le Dieu des chrétiens, le missionnaire s'interroge, comment se fait-il que d'emblée elle fasse cette demande, et elle lui raconte que trois jours plus tôt, alors qu'elle était dans une grande détresse, elle a invoqué tous ses dieux. Aucune réponse. Et finalement, désespérée, elle s'est mise à prier le Dieu des chrétiens. Elle avait entendu parler de ce Dieu des chrétiens, mais elle en avait entendu parler jusque-là en mal. Donc elle ne voulait rien savoir de ce Dieu des chrétiens, mais en désespoir de cause, puisque, paraît-il, ces chrétiens avaient aussi un Dieu dont ils lui avaient parlé, eh bien, elle avait laissé, elle a demandé à ce Dieu d'intervenir. Et alors qu'elle priait ce Dieu inconnu, un oiseau laissa tomber près d'elle un gros morceau de viande de surcroît, prêt à être consommé. Et émerveillée, elle voulait connaître et servir ce Dieu vivant auquel même les oiseaux obéissent. Troisième histoire. Elle se passe en Europe. Et elle se passe dans un pays que nous aimons bien, particulièrement mon épouse, mais puisque j'aime mon épouse, j'aime son pays d'origine, la Pologne. Il s'agit de Dobry, un paysan qui vivait dans un village près de Varsovie. Il connut une situation financière problématique, imprévue, et il arriva un moment où il ne put plus payer son loyer. Le propriétaire menace la famille d'expulsion pour le jour suivant. Et c'était une mauvaise période de l'année, il y avait beaucoup de neige, il faisait froid. Et voilà que notre ami Dobry entend les cloches qui sonnent pour la prière du soir. Et alors, réuni avec les siens, il s'agenouille et prie pour leurs besoins présents. Ayant prié, ils se lèvent ensemble et chantent un cantique « Remettez tous vos soucis entre ses mains ». Et voilà qu'à ce moment-là, ils entendent un bruit étrange à la fenêtre. Le père l'ouvre. Un corbeau est là. Il reconnaît le corbeau, parce que ce corbeau a été domestiqué jadis par le grand-père. Et dans son bec, le corbeau tient une bague de grande valeur qui a été perdue par le roi qui était en visite dans la ville de Varsovie. Dobry est un disciple de Jésus-Christ, pas question d'être malhonnête. Il réussit à atteindre le roi auquel il rapporte cette bague de grande valeur, et le roi le récompense en lui remettant suffisamment d'argent pour la construction de sa propre maison. Notre Dieu n'a pas changé. Et encore aujourd'hui, il se sert des corbeaux, s'il y a lieu, pour nous sortir de nos situations difficiles. Permettez-moi de terminer par une illustration plus personnelle. C'était le 13 octobre 1986, à Madagascar, lors d'un de mes voyages là-bas, et c'était un matin. Et ce matin-là, j'étais au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible dans la banlieue de Tananarive, où je préparais simplement ma journée. J'avais été invité par cette Ligue pour la lecture de la Bible et pour par les groupes bibliques universitaires pour un travail d'enseignement dans le pays. Et j'étais penché sur ma Bible. Et je faisais, comme on le dit, ma méditation, ma rencontre, mon cœur à cœur avec le Seigneur. Et il se trouve que dans mon approche systématique des Écritures, j'étais arrivé à Luc chapitre 12, versets 22 et suivants que nous avons lu en introduction. J'avais lu le texte, j'y avais réfléchi, et le Seigneur parlait à mon cœur sur ce passage. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, considérez les corbeaux, etc. Et voilà que le téléphone sonne. Et le secrétaire général de la Ligue malgache de venir frapper à la porte de ma chambre en me disant, Maurice, il y a un coup de téléphone pour toi. Je prends le téléphone et je découvre qu'au bout du fil, il y avait un ami, oh, que je connaissais très peu, qui suivait fidèlement les conférences que je donnais dans un des grands temples de Tananarive. Et ce personnage, ce monsieur, qui faisait, je crois même, partie du comité de la Ligue pour la lecture de la Bible à Madagascar, avait une particularité, il était reconnu à Madagascar comme le Pierre Cardin de l'île. C'est-à-dire comme le spécialiste par excellence de haute couture masculine, invité généralement par les autorités nationales, présidents, ministres, à leur confectionner leurs vêtements. Et il avait donc son atelier de haute couture dans une des principales rues commerçantes du cœur de la capitale. Et très simplement, cet ami connaissait Jésus-Christ, de me dire, écoutez, voilà, je viens à vos rencontres soir après soir, et cette nuit, Dieu a mis sur notre cœur, à mon épouse et à moi-même, de vous tailler un costume. Alors, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais savez-vous quel est le texte que je suis en train de méditer? Vous m'avez interrompu dans ma rencontre personnelle avec Christ. Je suis en train de méditer Luc 12, versets 22 et suivants. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Nous prenons rendez-vous dans son atelier, puisqu'il fallait qu'il prenne les mesures, et donc, dans l'heure qui suit, j'arrive, non pas ventre à terre, parce que là-bas, on ne peut pas rouler très vite, loin de là, j'arrive dans son atelier à Tana, et il prend mes mesures, nous choisissons ensemble un excellent tissu, et tout était excellent chez lui. Et puis il me dit, écoutez, prenons rendez-vous pour un premier essayage. Prenons rendez-vous et je rentre au siège de la Ligue, le cœur heureux, satisfait, tout étonné de la grâce de Dieu. Et ne voilà-t-il pas que le jour même, dans la soirée, le téléphone sonne à nouveau. Maurice, c'est pour toi. C'est ton tailleur. Et mon tailleur, eh ben, il était au 36e dessous, comme on dit. Il était presque un peu dépressif. Il me dit, écoutez, Monsieur Descaires, je suis vraiment malheureux. Parce que Nous avons choisi le tissu, vous vous en souvenez, et bien sûr, nous avons commencé à le couper, à le tailler. Et une fois que le travail de taille était entrepris, ne voilà-t-il pas que nous avons découvert deux trous faits par les mythes? Alors, je me suis dit, voilà, mon costume qui me passe sous le nez. Mais s'il était au 36e dessous, c'était parce que sa réputation était en jeu. Il ne voulait surtout pas que l'on sache, et maintenant il y en a qui le savent en quantité, n'est-ce pas, qu'il y avait des mythes dans son atelier. Alors il m'a dit, écoutez, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous priver d'un beau costume, mais ce qui me gêne, c'est que vous devez revenir. Parce qu'il faut que nous choisissions un nouveau tissu, en vue de nouveaux essayages, etc. Alors je suis revenu, nous avons choisi un nouveau tissu, je suis rentré à la ligue, et dans la nuit suivante, j'ai commencé à tourner sur mon lit, parce qu'il y avait quelque chose qui me chiffonnait. Hein. Quand on est le domaine des tissus, on peut être chiffonné. Et ce qui me chiffonnait, c'était de penser qu'il avait gâché du tissu de qualité. Et je me disais, mais quand même, est-ce que ce tailleur de renom n'est pas capable de négocier ces trous faits par les mythes, n'est-ce pas? Peut-être en faisant quelque chose de manière à ce qu'on ne les voit pas trop, mais peut-être pourrait-il quand même faire mon costume, puisque c'est déjà à ma mesure. Et ça éviterait, n'est-ce pas, une sorte de gâchis. Ça, c'était mon petit raisonnement à moi. Et bien entendu, comme je voulais être prudent, ne connaissant pas bien toute la mentalité malgache, mais sachant qu'il fallait être prudent dans les relations, parce qu'on peut être tout sourire devant, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, hein, je me suis adressé au secrétaire général de la Ligue le matin, lui ai dit, écoute, voilà, j'ai mal dormi, mais je t'explique pourquoi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que je devrais décrocher le téléphone et dire mon désarroi, mes questions, proposer à cet ami de faire quelque chose, etc. Il me dit, écoute, sois prudent, mais essaye. Alors, en prenant d'infinies précautions, j'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, je suis quand même ennuyé pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de quand même essayer de trouver une solution pour que vous puissiez utiliser ce qui a été coupé déjà? Et il m'a dit, non, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Oh, c'était clair, c'était net, c'était le haut tailleur, le grand spécialiste. Bon, compris. Raccroché. Et puis, je suis venu à la séance d'essayage. Et quand je suis arrivé, oh, j'avais prié. Parce que je continuais à être chiffonné à quelque part. Alors, puisque je ne pouvais plus le dire au tailleur, je l'ai dit au dieu du tailleur. Et je suis donc arrivé dans l'atelier et j'ai vu ce jour. Le tailleur et son épouse qui avaient un sourire. Et une des premières choses qu'ils m'ont dit, vous savez, on a trouvé une solution. Et on a même réalisé un prototype. En utilisant ce trou, un des deux trous, l'autre était moins problématique, ils avaient réussi à faire une certaine coupe avec un dessin qui passait juste sur le trou des deux qui était de loin le plus problématique. C'était un nouveau modèle. Alors je me suis dit, bon, ben ça va, je vais avoir un costume, pensez-vous. Le tailleur de me dire, non, vous n'aurez pas qu'un costume, vous en aurez deux. Celui-là, avec son trou transformé en prototype, n'est-ce pas? Et puis l'autre, avec le tissu que vous avez choisi avec moi, la seconde fois. Et c'est ainsi que dans un des pays les plus pauvres du monde, dans lequel je vais retourner, un voyage est programmé, dans un des pays les plus pauvres du monde, Dieu a choisi généreusement, souverainement, en dehors de toute recherche de ma part, je n'aurais jamais osé. Si on m'avait dit avant de partir à Tananarive que cela allait m'arriver, je me serais moqué des amis de Dieu. Écoutez, quand même, j'habite en Europe, j'ai des facilités, j'ai des possibilités, c'est certainement pas à Madagascar que de telles choses peuvent m'arriver. Ben non, Dieu avait décidé de m'apprendre qu'il avait des manières déconcertantes qui nous dépassent infiniment pour s'occuper de chacun de nos besoins. besoin. Le corbeau, en l'occurrence, c'était ce Pierre Cardin de Madagascar. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il me reste, avant que nous entamions simplement ce que nous allons développer demain matin, à donner une conclusion à ce grand chapitre premier vu ensemble sur la fidélité de Dieu. J'ai été sans égard pour les corbeaux. Et je pense que toutes les familles de corbeaux de la terre sont fâchées contre moi. Parce que vraiment, je n'ai dit que du mal. Alors je dois me rectifier le tir à quelque part pour souligner quand même une grande qualité chez les corbeaux. Ou peut-être y en a-t-il d'autres. Mais il y en a une qui m'a frappé. C'est la fidélité absolument remarquable dans la vie de couple du corbeau. Et il y aurait là beaucoup à dire concernant la vie de famille, la vie conjugale aujourd'hui, l'éducation des enfants. Et lu longuement un article d'un spécialiste sur la question, et ce spécialiste a souligné l'intelligence de celui qu'il appelle, et je le cite, cet athlète de l'espace, plein d'astuces, joueur infatigable, explorateur insatiable, époux fidèle, parent attentif. Et il ajoute, leur attachement et leur fidélité l'un à l'autre sont exemplaires. Les couples surmontent ensemble les problèmes quotidiens, cherchent ensemble leur nourriture, éduquent ensemble leur progéniture, jouent ensemble, affrontent ensemble l'ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Aujourd'hui, le corbeau était d'une manière toute particulière dans ce choix de Dieu. Aussi, à partir de là, un signe éminent de la fidélité. J'ajoute une courte anecdote qui m'a beaucoup touché, qui m'a été rapportée par un ami dans mon bureau. En septembre 1988, un cher ami, Daniel, qui vient pratiquement depuis 21 ans, bientôt 22 ans, chaque mois, passer 2 jours à la maison. Il est célibataire, il a une cinquantaine d'années, il s'est converti à Christ jadis pendant notre ministère en Bretagne, et il travaille comme infirmier réanimateur à l'hôpital bien connu de la Pitié-Salpêtrière, dans ce bloc très difficile à vivre. Et donc, il éprouve le besoin de passer le plus régulièrement possible du temps avec nous pour reprendre des forces. Et en septembre 1988, Daniel était très découragé. Il venait de connaître une chute dans sa vie avec le Seigneur, et il était assis dans son appartement parisien, au dernier étage. Et il s'apprêtait à écouter une première cassette sur le sujet que nous traitons ensemble pendant ce cours. Et juste au moment où il allait appuyer sur les touches pour enclencher l'appareil et écouter la première cassette, il remarque, juste devant sa fenêtre, sur un balcon, un corbeau, prêt à s'envoler. Et, mais curieusement, l'image de ce corbeau se fixe dans son esprit. Il enclenche la cassette et, au bout d'un moment d'écoute, il fait la relation entre le corbeau qui était là quelques instants auparavant sur le balcon et ce qu'il entend alors que je suis en train de parler du corbeau. Et il m'a expliqué comment, simplement, le lien entre le corbeau qu'il avait vu là, et on ne voit pas un corbeau tous les jours au cœur du Paris, n'est-ce pas, de cette manière, comment le lien entre le corbeau qu'il avait vu et l'écoute du message d'un roi 17 a été pour lui une planche de salut. Il s'est relevé, il est reparti avec courage, stimulé par ce clin d'œil du Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et soyons attentifs, parce que Dieu a plus d'un clin d'œil pour nous. Notre problème, c'est que trop souvent nous ne voyons pas les clins d'œil de Dieu, parce que nous sommes attachés à porter nos regards en d'autres lieux. Alors maintenant, notre ami Élie est devant son torrent. Il est très heureux. Il fait dodo chaque nuit dans une caverne à proximité. Il y en avait beaucoup, des cavernes dans cette région du torrent de Kérit, dans cette tranchée. Et je l'imagine qu'il partait avec son dentifrice et sa brosse à dents et son gant de toilette pour faire sa toilette au torrent. Et puis un jour, peut-être sur le soir, avant de se retirer dans sa caverne, alors qu'il était en train de se brosser hardiment les dents, il commence à être inquiet. Il a l'impression, à quelque part, que sa tendance au lumbago ou à la sciatique se réveille. Il dit, tiens, c'est curieux. Il semble que je sois obligé de me pencher davantage. Alors il examine de plus près et se dit, mais est-ce que le niveau du torrent aurait baissé un petit peu? Et cette nuit-là, quand il se couche, il ne dort pas. Je m'imagine. La Bible ne dit rien de tout cela. Mais je sais que, sans doute, est-ce ce qui me serait là? Parce qu'Élie n'ignore pas l'importance de l'eau. Les biftecs à point apportés par les corbeaux matin et soir, c'est une chose. On peut s'en passer. Mais l'eau, quand on sait simplement la place que l'eau occupe dans les Écritures, du début à la fin de la Bible, au moins 200 citations contenant des expressions composées, torrent d'eau, source d'eau, etc., plus une cinquantaine de mentions de la pluie. Cette pluie qui nous dérange tant parfois. L'eau présente du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Et que d'eau, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Genèse 2, 10, avec ses quatre bras. Psaume 110, verset 7, simplement quelques petits échantillons. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ézéchiel 47, 9, tout vivra partout où parviendra le torrent. Et puis toute l'histoire du message du prophète Jérémie, dans ses premiers chapitres, où l'Éternel est considéré comme la source d'eau vive, abandonnée par Israël infidèle au profit des citernes crevassées, de l'idolâtrie et des alliances coupables, Jérémie 2, 13 et 18. Et puis tous ces prophètes qui se succèdent, les uns après les autres, tous avec le même message, Osée, Joël, Amos, et qui tous vont évoquer le ciel qui se ferme, la pluie qui cesse de tomber, les torrents qui se vident, la famine qui sévit avec tout le cortège de malheurs qui l'accompagne. Il vaut la peine, n'est-ce pas, de lire ces livres prophétiques avec ces prophéties de Joël, par exemple, encadrées par deux affirmations. Les torrents sont à sec, chapitre 1er, verset 20. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, chapitre 3, verset 18. C'est encore pour la vie. Promesse d'une pluie de bénédiction ressuscitant la nature, Ézéchiel 34, verset 26-27. Et puis, dans le Nouveau Testament, l'eau du puits de Jacob pour la Samaritaine et celle de la source de Siloé pour les habitants de Jérusalem, utilisée par Jésus pour promettre mieux que cela, pour promettre l'eau de la vie, Jean 4, 14, Jean 7, 37, 39. Cette eau vive qui va déborder du cœur de celui qui se tourne vers Jésus-Christ, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Importance de l'eau. Lors d'un voyage privé au Liban et en Syrie, en 1995, voyage extraordinaire, nous avons vécu au Liban, mon épouse et moi, avec un autre couple, nous étions deux couples, une expérience pleine de piment, puisque nous avons été, à un moment donné de notre périple, arrêtés par le Hezbollah. Ah, le Hezbollah, qui fait tant parler de lui par rapport à Israël, n'est-ce pas? Et le Hezbollah, et le leader du Hezbollah qui était là, avec ses hommes, nous ont encadrés, et ont considéré que nous devions être des espions ou des journalistes, et n'étaient pas très heureux, tout simplement parce que dans les jours précédents, ils venaient d'assassiner un peu moins d'une dizaine de soldats israéliens. Et bien entendu, comme toujours, ils attendaient les représailles. Alors notre visite dans la région leur paraissait trouble et étrange, d'autant plus que nous étions très seuls. Et ils nous ont quelque peu interrogés, cuisinés, jusqu'à ce que finalement, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'ils faisaient fausse piste. Et le chef du Hezbollah, d'être rempli de confusion, et de se proposer de nous emmener chez lui, dans la montagne, pour nous offrir une tasse de café. Alors nous sommes allés avec le chef du Hezbollah, chez lui, prendre une tasse de café. Et nous avons passé une heure ensemble avec lui, et c'est là que nous avons touché du doigt l'importance de l'eau. Parce qu'elle joue aussi un rôle beaucoup plus important qu'il y paraît dans le conflit qui oppose Israël à ses voisins. Et il nous a dit, vous savez, dans mon village ici, il y a 365 sources d'eau. Et il essayait de nous laisser entendre le côté stratégique, n'est-ce pas, du combat du Hezbollah face à Israël. J'arrête là, 365 sources d'eau, avec tout ce que cela pouvait signifier. Je pense à Saint-Exupéry, qui a écrit plusieurs ouvrages, certains sont sans doute connus de vous, Courrier Sud, Vol de Nuit, puis il y a Terre des Hommes. Terre des Hommes est intéressant parce que Saint-Exupéry a connu en 1935 son quatrième accident en avion, un atterrissage forcé à 200 km du Caire, en plein désert. Et il a dû faire le premier jour quelques 60 km dans le sable. Puis il est revenu auprès de l'avion où son camarade Prévost attendait dans l'espoir d'être aperçu par un autre avion. Et en approchant d'ailleurs de l'avion, il est l'objet d'un mirage. Il croit voir auprès de son ami des Arabes, ils sont partout hein, là ce soir, hein, on les a vus tout à l'heure. En fait, c'est un mirage. Prévost devra le décevoir à son arrivée, il n'y a point d'arabe. Et Saint-Exupéry de dire, sans doute, cette fois, je vais pleurer. Les deux hommes trouveront encore une orange dans l'avion, ils essayeront en vain de boire la rosée, on a chanté sur la rosée tout à l'heure, recueillie dans les toiles de parachute, une eau effroyable. Ils marchent, et le cinquième jour, enfin, des Arabes sont aperçus sur une dune, et l'un d'eux s'avance. Et Saint-Ex va écrire ces lignes dans Terre des Hommes. Nous avons attendu le front dans le sable. Et maintenant nous buvons à plat ventre, la tête dans la bassine, comme des veaux. Le bédouin s'en effraie et nous oblige à chaque instant à nous interrompre. Mais dès qu'il nous lâche, nous replongeons tout notre visage dans l'eau. L'eau! Oh, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce, s'ouvre en nous toutes les sources taries de notre cœur. Il divinise l'eau, n'est-ce pas? Tu es la plus grande richesse qui soit au monde. Et tu es aussi la plus délicate, toi, si pure au ventre de la terre. On peut mourir sur une source d'eau magnésienne. On peut mourir à deux pas d'un lac salé. On peut mourir malgré deux litres de rosée qui retiennent en suspens quelques sels. Tu n'acceptes point de mélange. Tu ne supportes point d'altération. Tu es une ombrageuse divinité. mais tu répands en nous un bonheur infiniment simple. » Alors je comprends que dans son livre Le Petit Prince, que j'ai lu et relu tant de fois et qui est riche de leçons pour le disciple de Jésus-Christ, il évoque un dialogue, Saint-Ex, entre le petit prince et le marchand. « Bonjour !» dit le petit prince. « Bonjour !» dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. « Pourquoi vends-tu cela ?» dit le petit prince. « C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Hein? Et que fais-tu de ces 53 minutes ? On en fait ce qu'on veut. Moi, dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Importance de l'eau. Vital pour le prophète. Et c'est pour cela que durant cette nuit, si j'avais été à sa place, je me serais tourné, retourné comme une crêpe sur la pointe. Parce qu'une sourde inquiétude aurait commencé à pointer du nez dans mon esprit. Et j'imagine notre ami qui, le matin, se lève. Et il a pris soin, la veille au soir, de prendre des repères. Quand nous habitions au bord de la mer, en Bretagne, à quelques centaines de mètres d'ailleurs, de la mer, à Paimpol, gêné aller au bord de la mer, surtout à cause de la marée. Cette amplitude de marée qui, en Bretagne et dans cette région, est une des plus fortes d'Europe, puisqu'il y a entre 11 et 12 mètres de dénivelé, n'est-ce pas, entre la basse mer et la haute mer aux périodes d'équinoxe. Et je me plaisais à faire des petits repères dans le sable pour voir la vitesse de montée de la mer. Et j'imagine notre ami Élie qui aussi a pris des repères parce qu'il est inquiet. Le lendemain matin, il se précipite vers le torrent en maillot de bain. Il s'arrête, il regarde. Je ne me suis pas trompé. Le niveau du torrent est en train de baisser. Et ça le barbouille. Parce que ça m'aurait barbouillé. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Et il commence à s'interroger. Moi, je me serais interrogé. J'aurais dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le niveau baisse ainsi ? Seigneur, cette eau, j'en ai besoin. C'est le signe par excellence, plus encore que le pain et la viande. C'est le signe par excellence de ta fidélité. Et ça coule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les poissons, les corbeaux arrivent le matin, ils arrivent le soir. Mais le torrent, c'est tout le temps. Quand je me couche, j'entends le torrent. Quand je me lève, j'entends le torrent. Quand je suis réveillé pendant la nuit, j'entends le torrent. Tout le temps, hein, montez un peu plus haut, je ne sais pas où, hein, montez là-haut. Hein, et on entend. Signe de la constante fidélité de Dieu. Et j'ai remarqué comment, ces derniers jours, le bruit du torrent a baissé parce que le niveau a déjà commencé à sérieusement baisser. Quel est mon péché ? Pourquoi, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand l'eau de mon torrent se met à baisser, quand je commence à avoir des problèmes de santé, quand je commence à avoir des difficultés financières dans ma vie professionnelle, dans l'accomplissement d'un projet qui s'étiole comme une fleur qui se fane, alors que le temps passe. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai ? Ça ne vous est pas arrivé, ça ? De dire, mais Seigneur, je comprends. Et alors, dans ces moments-là, on se dit, il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une équation biblique qui marche. Je vais voir dans ma vie ce qui ne colle pas, et je vais le régler. Alors on dit, mais Seigneur, montre-moi. Si je ne suis pas en règle avec toi, si je dois aller voir quelqu'un pour demander pardon, si j'ai fait quelque chose de travers, Seigneur, montre. Et puis on règle les problèmes. On va vers un frère, vers une sœur, vers un collègue de travail. On règle ce qui est à régler. Et puis on se dit, ben, Seigneur, tu m'as pardonné, j'ai même réglé, j'ai réparé. Donc, le niveau du torrent a remonté. Alors Élie, ben, il a prié. Et puis il est retourné de temps en temps voir le torrent. Et il avait beau prier, le niveau du torrent baisse. Et vous savez par quel cheminement de pensée et d'attitude nous pouvons passer quand le niveau du torrent continue à baisser, malgré tous nos efforts pour avoir une relation juste avec le Seigneur et avec ceux qui nous entourent. Alors, on commence à creuser, parce qu'on est déçu. On a réglé le problème, et puis l'eau du pécheurs, on continue à pécher. Les choses ne s'arrangent pas. Alors on dit, mais Seigneur, s'il te plaît, montre-moi, je n'ai peut-être pas tout réglé. Et alors on commence à creuser, à faire ce qu'on appelle de l'introspection. On fixe son regard sur les profondeurs de son âme, de son cœur. Et on commence même par souci d'être en règle avec Dieu, avec le coup de pouce de la puissance des ténèbres, par s'inventer des fautes que l'on n'a jamais commises. Ce n'est pas de l'exagération. Le diable est fort dans ce domaine pour créer en nous de fausses culpabilités. Et donc, on commence à vivre dans un imaginaire et à régler des problèmes qui n'existent pas. Puis l'eau du torrent continue à baisser. Alors on se dit, bon, je n'ai plus qu'une solution. Je n'ai peut-être pas suffisamment de lucidité, de maturité. Je ne comprends pas bien mon problème. Je vais aller voir un aîné dans la foi. Je vais aller voir un serviteur de Dieu, je vais lui expliquer ma situation. Alors on va vers quelqu'un, on dit voilà, l'eau de mon torrent baisse. Dieu ne me bénit plus comme avant. Voilà les problèmes que j'ai, voilà ce que j'ai fait. J'ai réglé avec un tel pour trouver la communion avec le Seigneur. Voilà tout ce que j'ai fait. Et puis alors le serviteur de Dieu ou l'aîné vous regarde un petit peu sous ses lunettes là. Que tu es sûr, mon frère, d'avoir bien tout réglé. Parce qu'effectivement, l'eau devrait remonter. Ta coupe devrait à nouveau déborder. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que tu es sûr d'avoir dit toute la vérité? Et alors on est mal à l'aise. Parce qu'on réalise qu'il y a une sorte de suspicion chez le serviteur, n'est-ce pas, comme chez les compagnons de Job. Et oui, est-ce que tu es sûr d'être en règle, hein? Est-ce que tu es droit? Ah, si tu étais droit, ça irait tout seul dans ta vie. Tu aurais la bénédiction de Dieu. Ça a été le grand problème de Job, c'est conseiller avec leurs équations toutes faites. Hein. Si tu marches avec Dieu, ton torrent doit être toujours plein. Et alors il arrive parfois qu'on suive les conseils de l'aîné. Tu devrais lire ta Bible davantage, tu devrais prier davantage, tu devrais faire ceci davantage, tu devrais faire plus d'évangélisation, tu devrais être plus généreux pour le Seigneur. On fait tout ça. On dit, Seigneur, voilà, tu sais, tu connais mon cœur, j'ai décidé de t'obéir, et puis on va vers le torrent. Et le niveau continue à baisser. Et mes amis, Élie était un homme de prière. Ça veut dire que si j'avais été l'homme de prière Élie, dans cette situation, j'aurais dit, mais j'aurais plaidé auprès du Seigneur, puisqu'il pria en priant, dit le texte de Jacques 5, n'est-ce pas? Il pria de tout son cœur, c'est un pléonasme, hein, une répétition forte. Hein. Il pria en priant, de manière à ce que le ciel se ferme, et Dieu a répondu à sa prière. Et j'aurais dit au Seigneur, mais puisque j'ai prié pour que le ciel se ferme, ça s'est passé, Seigneur, tu ne veux pas exaucer ma prière rien que pour moi? Et Dieu s'est tué. Et le niveau du torrent a continué à baisser. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Quand on a tout essayé, quand on a prié de tout son cœur, et qu'on voit la situation qui continue à se dégrader sous nos yeux, qu'est-ce qu'on fait? Et on commence à douter. On commence à douter de la fidélité de Dieu. Et non seulement on est tenté de douter, mais on commence parfois à se révolter. Pourquoi? Mais parce que si Élie était dans cette situation, ce n'était pas lui qui l'avait cherché. Il n'avait fait qu'obéir à l'ordre de Dieu. Donc il pouvait se tourner vers Dieu pour lui dire, mais Seigneur, quand même, c'est comme ça que tu récompenses mon obéissance. C'est comme ça que tu payes tes serviteurs. Tu as vu, Seigneur, comment je suis entré dans le palais du roi Akab? Comment j'ai risqué ma vie? Comment j'ai annoncé qu'il n'y aurait plus de pluie? Tu as vu, Seigneur. Je l'ai fait par obéissance, par amour pour toi. Et c'est comme ça maintenant que tu me traites. Est-ce que j'ai bien fait d'obéir? Et nous ne le disons pas toujours avec la politesse que j'utilise dans mon langage maintenant. Dieu m'a laissé tomber. Je n'avais jamais dit ça, moi je l'ai dit. Dieu m'a laissé tomber. Et quand nous commençons à dire ceci, à combattre intérieurement, Seigneur, hein, on n'a pas envie de le dire, mais on le dit quand même. Hein. On est écartelé intérieurement. Qu'est-ce qui se passe? On commence à chercher des combines pour s'en sortir. Qu'est-ce que je vais faire s'il n'y a plus d'eau? Il faut trouver des solutions. Je ne peux pas simplement être le spectateur passif de cette dégringolade. Il faut que je trouve des solutions et on commence à utiliser dans sa vie le système D. Non seulement comme débrouille, mais comme d'équerre. On commence à bricoler des solutions humaines. Et quelqu'un, après cette étude que je donnais, pas très loin d'ici, de l'autre côté du lac, au Beatenberg, après une étude sur ce sujet, un des participants à la convention est venu me voir et m'a dit, vous savez frère, moi, dans cette situation, j'aurais été tenté de construire un barrage pour retenir l'eau. Alors nous aurons l'occasion d'ici jeudi de parler des barrages que nous construisons si souvent dans nos vies, dans des situations de ce genre, pour retenir l'eau. Quelqu'un d'autre, à une autre occasion, lors d'un entretien, m'a dit, moi, voyez-vous, je ne peux pas faire autrement dans cette situation que d'être un peu malhonnête. J'ai relevé avec beaucoup d'intérêt, dans un des livres de John Alexander consacré à la Genèse, et notamment au récit du déluge, cette remarque au sujet du corbeau lâché par Noé. C'est l'histoire, hein? Corbeau lâché par Noé, peut-être parce que, c'est intéressant, c'est l'inverse là, parce que l'eau ne descendait pas assez vite. On a le problème dans les deux sens. Et c'est sûr que, quand on connaît l'inondation, et certains l'ont connu là-bas dans le nord, hein, il y a des moments où vraiment l'eau ne descend pas assez vite. Alors, notre ami Noé a lâché un corbeau. Et c'est d'ailleurs la première mention du corbeau dans les Écritures, dans Genèse, au chapitre 8, dans les versets 1 à 7. Et John Alexander décrire ceci. Pourquoi l'Écriture, qui tait bien des informations fondamentales quant au déluge, s'arrête-t-elle sur l'épisode apparemment insignifiant du corbeau et de la colombe de Noé? N'est-ce pas parce qu'il s'en dégage une précieuse leçon pour nous croyants qui, si souvent, perdons le contrôle de nos réflexes sous le coup de l'épreuve? L'impatience peut être mauvaise conseillère. Nous ne supportons plus la contrariété. Alors, nous lâchons notre corbeau. En d'autres termes, nous donnons libre cours aux réactions naturelles de notre « moi » ou si vous préférez de notre chair, et ce corbeau s'élance, s'agite, se délecte peut-être en disséquant les cadavres que sont la médisance et la calomnie. Mais il est parfaitement inutile parce qu'il ne sert jamais la cause de Dieu. C'est bien à propos que le Seigneur a déclaré « la chair ne sert de rien ». Ce moi qui nous a déjà joué tant de tours pendables parce que nous en perdons trop souvent le contrôle, de même que Noé n'a pas pu rappeler à lui son corbeau lorsqu'il l'eut lâché dans la nature. Alors après, il y a la colombe. Alors nous avons le choix dans nos vies. Hein? Ou nous lâchons le corbeau, ou nous lâchons la colombe. Alors la colombe, c'est la paix. C'est l'esprit en opposition à la chair. Vous savez que Jonas veut dire colombe. Quand je parle de Jonas, je l'appelle Jojo la colombe. qui roucoulait si bien au sein du peuple d'Israël, mais qui avait quelque peine quand il s'agissait d'annoncer un autre message. Les bricolages. Il y aurait tant à dire sur les bricolages. Lorsque le torrent baisse de niveau. Les bricolages liés au retard de Dieu. Je pense à Abraham et Sarah. Voilà 10 ans que Dieu a accordé la première promesse d'une postérité. 10 longues années pour ce cher couple. Mais qui a vieilli? Ce n'était pas brillant lorsque la promesse a été donnée la première fois dans Genèse 12, mais 10 ans plus tard. L'eau du torrent, dans le domaine de la vie physique, avait bien baissé. Et c'est là que, vous le savez, Sarai a choisi la combine, le système D comme débrouille, ou inscrit dans le code d'Amourabi, dans les grandes lois de l'époque. On avait là un prétexte tout trouvé, c'était légal, c'était courant. Ça se faisait partout. Et puis il y avait Agar, la servante égyptienne qui avait été ramenée dans ce paquet de l'incrédulité depuis l'Égypte 10 ans auparavant. Voyez combien parfois nos fautes nous accompagnent dans leurs conséquences. Et vous savez ce qui est arrivé. Ce coup de pouce dans l'impatience de l'incrédulité qui vaut aujourd'hui encore combien de soucis, combien de drames pour le peuple d'Israël et pour les nations environnantes. L'épine, oh épine combien douloureuse dans le pied d'Israël. Tout simplement parce qu'alors que le torrent baissait, le torrent de la vie physique, et que s'éloignait tout espoir d'avoir une descendance par les voies les plus normales, les plus classiques, de la vie d'un couple authentique. On a trouvé la petite déviation qui permettait quand même de voir en quelque sorte, ou d'essayer de faire accomplir la promesse de Dieu qui, elle, vous le savez, ne s'est accomplie que une 15aine d'années plus tard. Parce que Dieu s'est tu. Dieu s'est tu ensuite pendant 14 ans, n'est-ce pas? Dans la suite du texte, il nous a dit que Dieu s'est révélé à Abraham 14 ans plus tard. Nous n'avons plus rien comme révélation de la progression d'Abraham dans la marche par la foi pendant 14 ans. Et quand Dieu se remet à parler au début de Genèse 17, c'est pour lui dire, écoute, sois intègre. C'est-à-dire pas de combine. Il lui rappelle qu'on ne bricole pas quand on marche avec Dieu, parce que les conséquences peuvent être tellement graves à long terme dans chacune de nos vies. Nous aurions pu prendre d'autres exemples, nous n'allons pas le faire parce qu'il est tard, mais vous avez remarqué, quand le ruisseau fut à sec, Dieu révéla le pas suivant. Et alors, Élie obéit. Nous avons dans le verset 7 ce que j'appelle un des mais, M-A-I-S, énigmatique de Dieu. Pour nous, on lit, on ne s'arrête pas. Ah oui, le torrent était à sec, et puis on voit tout de suite Sarepta. Si Dieu a donné ce petit verset 7, c'est parce qu'il considérait, lui, notre Dieu, que ce petit verset 7 était un joyau, c'était une pépite d'or au fond de la rivière, à cueillir, à exploiter. Et c'est donc ce que nous allons faire à partir de demain matin. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Suivi d'un « Alors !» Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Fidélité du prophète, fidélité mise à l'épreuve. La nôtre doit l'être aussi, si nous voulons grandir en fidélité dans notre vie ici-bas.